France Inter.
Je peux goûter comme ça?
Oui, bien sûr.
C'est bon.
La palifolia bourbon, c'est une vanille avec un parfum vraiment avec une belle douceur, des notes de fruits secs type pruneau. Et derrière, on a parfois un petit côté poivré qui arrondit un petit peu tout ça. Et vraiment un côté d'une sucrosité qui est assez exceptionnel. C'est un exhausteur de goût, la vanille. Et lorsqu'on la met, cette vanille bourbon-là, dans un plat, ça développe la sucrosité du plat aussi. Pour moi, c'est une vanille qui sort de l'ordinaire, en tout cas, avec ses notes assez distinctives. Saint-Philippe, c'est la capitale de la vanille à La Réunion.
Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur le plateau dont on va déguster des parfums de sous-bois, de cuir, de caramel, d'anis, voire même de cacao ou de tabac. Le studio 621 de la Maison de la Radio s'est transformé en véritable chambre aromatique ou en cave à vanille. La vanille, aujourd'hui on vous raconte et on cuisine cette épice mythique, cette gousse universelle aux arômes envoûtants, ses variétés, ses grands crus, ses techniques de préparation, ses recettes. On va vous montrer comment une nouvelle garde d'artisans et de pâtissiers, de pâtissières, se passionne pour la vanille. Nos deux invités du jour travaillent ensemble. Je crois même qu'ils sont devenus un peu amis et ils ont 50 ans à eux deux, 25 chacun. 25 ans, c'est l'âge de Paul Galland. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sourceur, marchand de vanille, c'est...
Exactement, et pâtissier.
Et pâtissier.
Oui.
Quel est le terme que vous préférez pour définir votre métier ?
Sourceur de vanille, spécialiste dans toute variété de vanille.
Et les variétés de vanille, elles nous font l'œil, elles sont sous votre micro, c'est absolument impressionnant. Vous nous avez apporté une petite partie, je dis bien,
oui,
une petite partie de votre collection personnelle de vanille. Vous avez parcouru le monde entier à la recherche de ces gousses. C'est quand même tout à fait étonnant. Il y a combien de tubes en verre, là, de tubes à essai ?
Là, je pense qu'il y en a une petite trentaine, presque.
On voit plus la couleur de la table.
C'est incroyable. Et les parfums, je ne vous raconte même pas. 25 ans, c'est aussi l'âge de Tessa Ponzo. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef pâtissière de La Serre, grande maison parisienne. C'est le célèbre restaurant de l'avenue Franklin Roosevelt.
Tout à fait.
À Paris, sous les ordres de...
Jean-Louis Nomicos.
Absolument, grand nom de la gastronomie française. Et vous aussi, la vanille, vous l'avez notamment travaillée, découverte, grâce à Paul.
Tout à fait.
Et vous nous avez préparé de très jolies recettes. Allez, juste comme ça, un tout petit avant-goût.
Une petite tartelette à la vanille de Tanzanie fumée, accompagnée avec quelques noisettes du Piémont et un petit glaçage.
Oula, alors évidemment,
quelque chose de très crémeux, un peu gourmand et régressif.
On va avoir de très très beaux desserts, on va absolument se régaler, je vous avais prévenu. On a affaire aujourd'hui à des talents très précoces. Je vous emmènerai également sur l'île de la Réunion, sur la commune de Saint-Philippe, dans le jardin agroforestier de Franck Morel, qui cultive et transforme une magnifique vanille bourbon en agriculture biologique. Et pour nous accompagner jusqu'à midi, notre chroniqueuse vin, Justine Knapp. Bonjour Justine.
Bonjour.
Alors
Aujourd'hui, je vais vous parler des nouveaux accords à table.
Tout à fait intéressant. Des recettes vanillées, des souvenirs vanillés. Racontez-nous votre relation à la vanille en direct sur franceinter.fr ou sur notre mail onvadéguster@radiofrance.com. Retrouvez toutes les infos liées à notre émission du jour, tous nos podcasts, les podcasts de nos émissions et de nos chroniques sur franceinter.fr à la page On va déguster.
France Inter, on va déguster avec François-Régis Gaudry.
Chers invités, avant de causer vanille, je vous apporte une petite surprise à déguster. Vous êtes pâtissier de formation, après tout. Pâtissier de profession aussi, n'est-ce pas, Tessa ?
Tout à fait.
Vous avez reconnu ce que vous avez sous vos micros ou pas ?
Oui, je crois bien que oui.
Une galette.
Et oui, on est encore en janvier, la période de la galette bat son plein. Et je voudrais qu'on tire les rois ensemble avec une galette pour laquelle j'ai eu un petit coup de cœur. À vous de me dire ce que vous en pensez. Allez-y, dégustez. Je m'en coupe une petite part à moi aussi.
Eh bien écoutez, je crois que j'ai la fève.
Tessa, reine du jour.
Moi aussi, j'ai la fève.
On peut dire que c'est une galette des reines. Oh là 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 là.
Déjà, ça veut dire que c'est une galette où il y a deux fèves. Alors, Paul.
Elle est très bonne. Alors, il n'y a pas de vanille, mais par contre, il y a du rhum dedans,
oui.
À mon avis.
Il y a une petite touche de rhum, absolument.
Et ça, j'adore dans la galette, ça me rappelle des souvenirs de la galette de mon oncle, qui était pâtissier au Mans. Oui. Enfin, qui avait son entreprise au Mans. Mm-hmm. Il faisait aussi une galette des rois avec du rhum dedans.
Avec un petit goût comme ça, à l'ancienne. Tessa, à votre avis, crème d'amande ou frangipane?
Je dirais crème d'amande.
Et il y a un tout petit peu de crème pâtissière, malgré
donc
tout.
Donc c'est une frangipane.
Voilà, définition, la différence entre crème d'amande et frangipane.
Alors une frangipane, c'est un tiers de crème pâtissière pour deux tiers de crème d'amande.
C'est ça, donc au départ il y a la crème d'amande et on y ajoute pour l'onctuosité, j'imagine.
Tout à fait.
Un peu de crème pâtissière et ça donne la frangipane.
Et un peu pour la texture aussi.
Alors vous aimez bien cette galette, est-ce que vous aimez aussi son feuilletage car il est un tout petit peu particulier?
Oui, il est bien beurré je trouve.
Oui, ouais. Bien beurré.
Il est délicat.
Bien cuit.
C'est un feuilletage viennois, Paul.
Feuilletage viennois, donc avec de la crème en plus.
Oui, c'est-à-dire que c'est un feuilletage qui est assez hydraté.
C'est ça.
Il est assez beurré aussi.
Oui.
Et il a un côté légèrement émietté, mais très agréable. Vous aimez ou pas cette galette, Justine?
Oui, très bon. Je trouve qu'il y a un grain dans la frangipane et qu'il y a un côté rustique.
Oui, c'est vrai. Elle est pas trop, c'est vrai qu'elle n'est pas trop lisse. Il y a un petit côté légèrement granuleux. C'est peut-être lié aussi à la mouture de l'amande en poudre. En tout cas, elle est très agréable. Et bien, cette galette, elle vient, figurez-vous, de la maison d'Isabelle. Vous connaissez?
Non, pas
du tout.
Isabelle Ledet, dans le 5e arrondissement, juste en face de Notre-Dame de Paris. Cette galette est donc composée d'un feuilletage viennois.
Je l'ai tout mangé, moi.
Eh ben oui, je vois ça. Vous êtes un vrai gourmand. Et ce feuilletage est fait avec des farines bio qui proviennent du moulin Paul Dupuis. On est à Gournay-en-Bray, dans la Normandie, en Normandie. Il y a un beurre AOP des Deux-Sèvres, de la laiterie de Pamplis. Il y a donc une frangipane. Il y a deux fèves, ce qui est quand même tout à fait intéressant.
Jolies fèves.
On a nos deux reines du jour. Et figurez-vous que cette galette est arrivée deuxième au concours de la meilleure galette du Grand Paris en 2022. Première galette en 2022 à Paris intramuros. Et ce qui m'a intéressé dans cette galette, au-delà du fait qu'elle est fabriquée par une pâtissière boulangère de grand talent, mais qu'elle est également très très bonne, c'est son prix qui reste malgré tout, on le sait, hein, dans une surenchère incroyable aujourd'hui entre les maisons parisiennes, les maisons des régions françaises, c'est qu'elle reste finalement relativement raisonnable puisque elle est très généreuse pour 6 personnes, 5-6 personnes, 23,50 €. C'est l'un des meilleurs rapports qualité-prix de Paris. Et sachez qu'Isabelle Ledet fait également un délicieux croissant qui a été élu meilleur croissant de Paris en 2018. Voilà, la galette de la maison d'Isabelle disponible jusqu'à fin janvier. Isabelle Ledet, qui est 47 Terre, boulevard Saint-Germain, 5e arrondissement de Paris. Est-ce qu'il faut, dans une frangipane ou une crème d'amande, une touche de vanille ou c'est pas forcément nécessaire, Paul Galland?
C'est pas forcément nécessaire, mais en tout cas, si un jour j'ouvre ma pâtisserie, il y aura une touche de vanille dedans, sûr et certain.
Et comme la fève, c'est mieux de l'avoir.
C'est ça.
Parce que ça apporte, évidemment, un petit relief supplémentaire.
Complètement. Puis en plus de ça, il y a quelques variétés de vanille qui, s'adapteraient très bien à cette crème d'amande frangipane, en tout cas.
On plonge dans l'univers fascinant de la vanille dans quelques instants. C'est Laurent Thomas qui réalise cette émission avec Élise Christophe à la technique. La préparation et l'organisation de l'émission est assurée par Fabrice Rivaud. Petite escale musicale. Écoutez bien, ouvrez vos oreilles, Paul Galland. Du côté de la Polynésie, grand terroir de vanille, cher à votre cœur, avec un très beau titre, Ovaï, du duo tahitien Vai Teani, choisi par Djoubacar. Bon voyage et bon appétit sur France Inter. Waha ama wiu wiu, waha ama wiu wiu. Au moment de préparer cette émission sur la vanille, je me suis procuré ce petit fascicule intitulé « Vanille ». C'est un numéro des Cahiers du Naturel, une collection lancée par cette revue passionnante qui s'appelle « Nez ». N-E-Z, qui traite des parfums et l'univers olfactif. Et je tombe sur une interview d'Olivier Rollinger, l'ancien chef de Cancale, évidemment, qui a poussé assez loin l'expertise de la vanille. Je vous cite ce qu'il dit. « C'est sans doute l'épice la plus proche de la porte de l'enfance. Pour le petit garçon que j'étais et que je suis un peu resté, c'est très réconfortant. On peut prendre toutes les vanilles, quelles qu'elles soient, leur dénominateur commun, leur point de convergence, leur atout majeur, la raison pour laquelle on craque tout le temps, c'est qu'elles sont bourrées de tendresse, et c'est probablement la plus belle chose. On y retrouve la caresse d'une mère. » Paul Galland, dans votre cas, ce serait presque la caresse d'une grand-mère.
Oui, exactement. Depuis tout petit, en fait, ma grand-mère a des origines de Tahiti, a de la famille qui vit à Tahiti. Mm-hmm. Et en fait, moi, depuis tout petit, ma grand-mère me prépare des riz au lait avec cette fameuse vanille de Tahiti qu'elle ramène soit quand elle part à Tahiti ou soit qu'on lui ramène de la famille de Tahiti. Et des riz au lait incroyables avec cette fameuse gousse de vanille de Tahiti qui est toute mon enfance et je pense qui a démarré ma passion autour de ce fruit, de cette épice magnifique.
Parce qu'alors, la vanille de Tahiti, c'est effectivement quelque chose, la Polynésie française oui. étant un grand terroir pour cette épice.
Il y a quelques années en arrière où j'étais pas né, mais c'était le début, on connaissait surtout cette vanille, la Tahitensis de Tahiti, et moins justement la vanille de Madagascar. Mais à l'heure d'aujourd'hui, au contraire, on connaît surtout la Planifolia de Madagascar ou la Réunion, mais de moins en moins la vanille de Tahiti.
Parce qu'alors, il y a énormément de variétés botaniques dans ce monde oui. envoûtant, fascinant, très complexe aussi de la vanille. Mais ce que l'on peut dire, c'est que la vanille, au départ, elle est endémique
Du Mexique. De l'Amérique du Sud.
De l'Amérique du Sud. Voilà. La Planifolia, alors c'est la Planifolia, une des variétés qui a été découverte par les Européens au XVIe siècle.
C'est ça.
Mais ensuite, il y a effectivement d'autres variétés qui se sont développées sur d'autres terroirs.
Oui.
Il y a donc cette Tahitensis, alors, qui porte un peu le nom de son origine.
Oui.
Même si c'est une hybridation.
C'est une hybridation qui a été... on ne sait pas si elle a été faite naturellement ou si elle a été croisée par l'homme volontairement. Mm-hmm. Mais en tout cas, ce serait entre une variété qui s'appelle la Odorata et une variété qui s'appelle la Planifolia. Mm-hmm. Donc c'est un croisement entre ces deux variétés-là qui ont été introduites en fait à Tahiti sous le nom de X Tahitensis. X pour dire hybride en fait.
Hybride, voilà. Croisement, absolument.
Croisement, c'est ça.
Et une autre variété que l'on trouve dans de très nombreux terroirs autour du monde, c'est la Pompona.
La Pompona, qui est aussi une variété qui est endémique, surtout du coup de l'Amérique du Sud, Mexique, Brésil, Colombie, Pérou, tous ces terroirs-là, la vanille pousse naturellement là-bas. Voilà.
La Tahitensis a une palette aromatique bien particulière. Oui. Pour celui ou celle qui n'aurait jamais mis le nez sur une gousse de vanille de Tahiti, comment on pourrait décrire ces parfums?
Alors, c'est une vanille qui va être bien plus fruitée qu'une vanille planifolia. Mm-hmm. La vanille Tahitensis, ce qui va vraiment se dégager, c'est vraiment un nez très anisé, très fruité, avec des notes souvent épicées, de pain d'épices ou alors même d'amande amère ou de cerise. C'est souvent ces notes-là, moi, que je retrouve dans la variété Tahitensis.
Et paradoxalement, la Tahitensis n'est pas forcément le goût et le parfum caractéristique de
oui,
la vanille.
C'est
pourquoi?
Ça, parce qu'en fait, dans la Tahitensis, il n'y a pas de ou très peu de vanilline. Uh-huh. La vanilline étant le composé aromatique principal sur la variété Planifolia. Donc ce goût vanillé qu'on connaît tous, en fait, dans cette variété Tahitensis, il n'y en a quasiment pas du tout. Donc on peut perdre certaines personnes en faisant goûter des préparations à la vanille Tahitensis parce que justement, il n'y a pas cette note connue de vanilline en fait.
Avec beaucoup de générosité, Paul Galland, vous nous avez apporté votre madeleine d'enfance, la recette de votre grand-mère, puisque oui. vous évoquiez un riz au lait.
Oui.
Alors évidemment, avec la vanille de Tahiti, j'imagine.
Bien sûr.
À vos cuillères, Justine. Tessa, je voudrais un petit commentaire sur le riz au lait de Paul. Parce qu'alors, c'est un riz au lait de compétition.
Il y a autant de grains de vanille que de grains de riz.
Pourtant, il n'y a pas tant de vanille que ça. Il y a deux gousses de vanille.
La texture.
Mais très...
La cuisson du riz. Qui reste croquant, il y a de la mâche, mais ça fond en même temps. Et cette vanille Tahitensis, Je trouve qu'elle apporte beaucoup de légèreté en général et un côté très floral, beaucoup de fraîcheur, contrairement à une planifolia qui va apporter plus de rondeur. Mais en fait, c'est juste super bon, en fait.
Floral, d'accord, mais je trouve qu'il y a aussi de la puissance.
Oui.
Il y a des notes aussi boisées, je trouve.
Il y a des notes aussi un peu boisées, effectivement, pour plusieurs raisons. Donc, une fois le riolet cuit, sans vanille, il n'y avait pas de vanille à la cuisson. Une fois le riolet cuit, j'ai ajouté les grains purs de 2 gousses de vanille. Donc là, vraiment le grain pur à froid, donc ce qui apporte déjà une très bonne note aromatique. Mais ensuite, j'ai donc laissé 1 gousse donc déjà grattée dans le riolet infusé. Et avec ce lait de cuisson, en fait, j'ai broyé entièrement la dernière gousse dans ce lait de cuisson, bien broyé et ensuite chinoisé pour en garder uniquement ce lait concentré de cette peau de vanille qui contient énormément de saveurs, bien plus que dans les grains en fait.
Mais attendez, vous êtes en train de nous faire une incroyable révélation, Paul Galland. Parce qu'alors, en préparant cette émission, Paul m'a quand même dit, oulala, le problème c'est qu'en France, on connaît rien à la vanille, y compris, sans dénoncer personne, des grands noms de la cuisine et de la pâtisserie. Oui. Et il est vrai qu'on fait régulièrement des erreurs avec la vanille. Et première révélation, il y a beaucoup de molécules aromatiques et d'intensité, de goût et de parfum dans l'enveloppe de la gousse.
Exactement.
Presque plus que dans les grains.
Oui, totalement.
Alors que souvent...
Les grains ont déjà beaucoup de saveur, mais la peau a encore plus de saveur. Bah, il suffit tout simplement de gratter la gousse, de goûter les grains purs comme ça, et ensuite de goûter aussi l'écorce de la vanille, de la croquer, de la mâcher. Alors des fois, c'est pas forcément toujours très agréable. Sur certaines variétés, beaucoup plus, mais sur la variété planifolia ou Titan 6, ça va être assez fibreux. Mais on va déjà sentir cette saveur que peut avoir la peau. D'ailleurs, moi, toutes les vanilles, quand je les reçois pour les tester, c'est la première chose que je fais, c'est de les croquer.
Alors, les grains, ils ont l'intérêt, effectivement, d'apporter les petits points noirs dans un flan pâtissier, dans un riolet, et effectivement, d'indiquer la présence de la vanille. Mais attention, on ne jette surtout pas la peau de la vanille, c'est bien ce que vous êtes en train de dire. Et d'ailleurs, dans un instant, Tessa va nous apprendre à faire un sucre vanillé, par exemple.
Oui, avec plaisir.
Et Paul, deuxième révélation très importante, jamais ne faire infuser une vanille à chaud. C'est ça que vous êtes en train de me dire?
Alors jamais, je ne sais pas, mais effectivement, il faut éviter de faire chauffer la vanille. Déjà, en fait, le composé aromatique principal sur la variété planifolia, qui est quand même la vanille la plus utilisée dans le monde.
C'est vrai.
La vanilline, qui est le composé aromatique principal sur cette variété, s'évapore à plus de 60 degrés. Donc en fait, dans une cuisine, quand on rentre et ça sent la vanille, ben en fait, tout le goût qu'on sent, ben c'est dans l'air. Et,
ah, c'est embêtant.
Et c'est plus dans la casserole et donc plus dans le goût, en fait.
Comment on s'y prend concrètement pour une infusion à froid? On trempe la gousse de vanille fendue?
Oui, alors il y a plusieurs façons. Donc on peut gratter la gousse une fois, par exemple, une crème anglaise faite, donc cuite. On gratte la gousse, on met ses grains, on mélange un peu évidemment pour disperser ses grains et on laisse les gousses infuser comme ça pendant 24-48 heures. Plus on va attendre, plus la vanille va s'exprimer en fait. Les molécules aromatiques de la vanille vont se coller avec le gras d'une préparation ou autre. Donc ça, c'est la première façon. On peut aussi broyer entièrement cette peau de vanille dans la crème anglaise une fois finie, la broyer entièrement et de la passer au tamis pour enlever tout ce qui est peau fibreuse. Et ensuite, on a une préparation extrêmement vanillée.
Tessa Ponzo, est-ce que vous appliquez du coup cette méthode de l'infusion de la vanille à froid dans vos corps gras?
Et oui, j'applique cette méthode depuis que j'ai rencontré Paul.
La rencontre s'est passée quand?
Oh, je dirais il y a un peu plus d'une bonne année maintenant.
Oui, un an, ouais.
Une bonne année. Et on a beaucoup discuté autour de la vanille, qui est un produit que j'affectionne beaucoup. Mais en fait, quand j'ai rencontré Paul, je me suis rendu compte que je ne la connaissais pas si bien que ça. Et qu'il y avait plein de richesses à découvrir de cette merveilleuse épice qu'on connaît tous, mais finalement qu'on ne connaît pas si bien que ça. Donc j'ai aussi fait des tests, moi, sur plusieurs variétés différentes. Infusion à froid pendant 48 heures, donc avec le même grammage sur chaque gousse de plusieurs variétés et origines différentes, que j'ai fait infuser dans le lait pendant 48 heures. Et ensuite, j'ai fait une dégustation avec mon équipe à l'aveugle de 5 ou 6, il me semble, 5 ou 6 vanilles, les vanillées finalement, pour savoir ce qui ressortait le plus. Et en fait, là aussi, je me suis rendu compte que dans notre esprit, on assimile la vanille a une certaine note aromatique, mm-hmm. alors que la vanille peut nous offrir tellement de possibilités de notes aromatiques, et ils ont tous préféré la Planifolia Madagascar, donc la plus régressive, celle qu'on connaît le plus, le mieux.
Qui porte ce goût un peu idéal de vanille.
Tout à fait, parce que dans l'esprit et dans l'inconscient, ah, ça c'était de la vanille, mm-hmm. et le reste c'était un peu plus perturbant. Par exemple, notamment sur la vanille Pompona Tsi de Madagascar, qui je trouve a une très très belle acidité, et ben d'emblée comme ça à l'aveugle, c'était difficile de dire ah, là, mm-hmm. là on est sur de la vanille. Où il n'y a que ça à l'intérieur. Donc oui, c'est un procédé que j'applique maintenant sur une grande partie de mes recettes. Après, mm-hmm. des fois, je ne vais pas mentir, je fais quelques exceptions sur des recettes où j'ai besoin, par exemple, comme le praliné, où j'ai utilisé une méthode de fumaison. Donc là, forcément, je ne pouvais pas fumer à froid.
Et oui, on va déguster dans un instant une formidable tartelette réalisée par Tessa Ponzo, chef pâtissière de la maison Lasserre, Paris 8e. Une petite tartelette pralinée vanille avec les vanilles évidemment de Paul Galland, puisque c'est votre fournisseur officiel désormais.
Oui, je travaille en exclusivité avec Paul parce que, pour la simple et bonne raison, c'est que, à mon sens, aujourd'hui, c'est lui qui m'offre les plus belles vanilles et je n'ai pas trouvé. Meilleure chaussure à mon pied, quoi.
Et on parle beaucoup, beaucoup de ce jeune garçon dans le milieu de la gastronomie française, bientôt internationale, j'en suis sûr, puisque vous êtes un sourceur de vanille absolument exceptionnel. Je vous propose un petit voyage, ça vous irait ou pas ?
Bien sûr.
Oui. J'ai eu la chance de partir il y a quelques semaines à La Réunion, ce gros bout de France au cœur de l'océan Indien, et j'ai fait une sacrée rencontre dans un jardin tropical bercé par les alizés.
Donc moi, c'est Franck Morel. Agriculteur à l'île de la Réunion, à Saint-Philippe plus précisément. Je cultive en agroforesterie, agriculture biologique, une multitude d'espèces, notamment plein de fruitiers, des épices, du cacao. Il y a plusieurs générations qu'on cultive la vanille dans la famille. Mon arrière-grand-père faisait la vanille dans la forêt de Marlong, donc à l'une des dernières forêts de basse altitude humide du monde. Il n'en reste que deux autour du monde, une à Hawaï et une à la Réunion. On a un terroir exceptionnel, donc jeune terroir volcanique. Et du coup, la vanille, bah, c'est une culture vraiment emblématique. Notamment, Saint-Philippe, c'est la capitale de la vanille à La Réunion.
Alors, elle est où, cette vanille ?
Bah, la vanille, il faudra monter un petit peu plus haut.
Il y a de la végétation partout, des paysages exceptionnels.
Bah, c'est vrai qu'ici, on est hyper diversifié. Donc, il y a plein de fruitiers, il y a des fleurs aussi. Parce que les fleurs servent à créer un environnement, notamment pour les insectes auxiliaires qui nous aident à réguler un petit peu les mauvais insectes, entre guillemets. Pas mal d'abeilles aussi.
Il y a des fruits qui pendent, on est vraiment dans un jardin d'Éden.
Bon, là, on va arriver dans le carreau de vanille, justement.
Comment on pourrait décrire un pied de vanille comme ça ? C'est une espèce de plante grimpante, en fait.
Nous, ici, on la cultive surtout sur des tuteurs, donc c'est des palmistes rouges.
Que l'on peut manger en salade.
Exactement, qui fait à peu près une dizaine de mètres de haut. Ça, c'est endémique des Mascareignes, et vraiment, pour nous, c'est un des tuteurs idéaux pour la vanille. Ça résiste très 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 bien au cyclone. La vanille s'y plaît bien, pousse bien. Alors en ce moment, c'est la période de floraison, donc tous les matins, on passe faire la pollinisation manuelle. Sans intervention de l'homme, on n'a pas de gousse de vanille.
C'est une orchidée ?
Orchidée, effectivement. La fleur, elle dure une journée. Généralement, on commence le matin pour faire les fleurs de vanille, parce que l'après-midi, c'est pas l'idéal hein, pour faire la pollinisation des fleurs de vanille, parce que les fleurs se referment et c'est moins accessible. C'est une fleur donc, avec 5 pétales. À l'intérieur, on a 2 organes, puisque la fleur est hermaphrodite, on a les 2 organes mâles et femelles. Et il y a simplement une petite languette qui sépare les 2 organes. La manipulation fait qu'on va soulever cette petite languette-là pour mettre en contact les 2 organes. Et ensuite, se crée la pollinisation.
Et c'est de cette fécondation que va naître, en fait, la gousse de vanille.
Voilà. Dès le lendemain, on voit que la fleur va sécher. Mais elle va rester accrochée à la gousse qui est vraiment... Au début, c'est juste une excroissance un peu verte, on va dire. Et c'est cette partie-là qui va grossir au fur et à mesure. Et au bout d'un mois et demi, 2 mois, quasiment la gousse aura sa taille définitive. Et il faut attendre 10 mois après la pollinisation pour récolter la gousse de vanille.
Pourquoi cette pollinisation ne peut pas se faire naturellement ?
À La Réunion, on n'a pas l'insecte qui réalise naturellement la pollinisation. La Mélipona, c'est une petite abeille qui est originaire d'Amérique centrale, qui là-bas fait le travail. Et c'est vrai que localement, on est obligé de passer par la main de l'homme. D'ailleurs, c'est une technique qui a été inventée par un réunionnais, donc Edmond Albus, jeune esclave qui a justement mis en, en lumière cette technique-là et qui, grâce à lui, aujourd'hui, on arrive à cultiver de la vanille ailleurs qu'en Amérique centrale. Sur les 2 hectares de vanille qu'on a implantés sur notre terrain familial, on a des pics à 2000-1500 fleurs par jour. Et il ne faut pas traîner. Moi, je le fais depuis petit et c'est un geste quasi mécanique. C'est instinctif. Voilà. Et là, on va arriver sur une liane avec une belle floraison.
Ah ouais.
Il y a une dizaine de fleurs aujourd'hui qui a été faite sur cette liane de vanille. C'est vrai que ce genre de floraison exceptionnelle, on l'a quand même pas mal de fois cette année. Contrairement à l'année dernière, on a eu très peu de floraison, quasiment pas. Et c'est ça, en fin de compte, la vanille, c'est une plante qui a besoin d'un stress. Et localement, c'est un stress thermique. Il a besoin d'avoir un hiver, entre guillemets, hein, le plus froid possible. Bon, ici, l'hiver austral, il fait 18 degrés à peu près.
En fait, c'est pour la plante une façon de survivre, d'essayer de féconder.
Exactement, parce qu'à l'intérieur d'une gousse de vanille, c'est des milliers de graines. Et ça sert justement à la multiplication de la plante. Donc effectivement, ce qu'on mange, en fin de compte, c'est toutes ces petites graines-là remplies de saveurs et de parfums.
Évidemment, la variété de vanille à La Réunion, la variété reine, c'est la Bourbon.
C'est ça, Polyphonia Bourbon. Elle n'est pas cultivée qu'à La Réunion. C'est vrai que Madagascar a aussi produit la Polyphonia Bourbon. D'ailleurs, c'est des Réunionnais hein, qui ont lancé la culture là-bas. C'est la vanille de La Réunion.
On redescend ?
On va retrouver dans un instant Franck Morel devant ses vanilles après son processus de transformation. Alors cette question de la pollinisation, c'est assez intéressant parce qu'on l'a compris qu'à La Réunion, il fallait la main de l'homme.
Oui.
Il y a d'ailleurs un livre que je voudrais signaler, Gaël Bellem, Le fruit le plus rare ou la vie d'Edmond Albus, un roman aux éditions Gallimard qui raconte cette étonnante aventure de la découverte de la pollinisation manuelle. Mmh. Parce qu'il y a évidemment, et notamment dans le berceau historique de la vanille, des oui. endroits où la pollinisation peut se faire de manière totalement naturelle.
Grosso modo, dans tout ce qui est Amérique du Sud, Amérique centrale, on a un insecte pollinisateur qui est l'abeille.
Mm-hmm.
Des petites mélipones, en fait, qui sont toutes petites. Et on la retrouve que ici, ou alors aussi le colibri au Mexique peut polliniser naturellement la fleur de vanille.
Mm-hmm.
Alors, a priori, il y a d'autres insectes qui pourraient les polliniser, mais il n'y a pas encore de certitude. Mais a priori, la fourmi peut être un insecte pollinisateur.
Par contre, vous avez découvert quelque chose d'assez exceptionnel, c'est oui. qu'il existe également des vanilles pollinisées naturellement en Afrique.
Oui. En fait, je suis parti en Tanzanie très récemment. L'Afrique n'étant pas un terroir où on peut retrouver des vanilles pollinisées naturellement,
mm-hmm.
mais pourtant, j'ai bien rencontré des producteurs qui avaient des vanilles planifolia fécondées naturellement, et aussi un peu plus haut de la Tanzanie, à côté du lac Victoria, dans cette région-là, j'ai pu découvrir, après de longues marches, une variété sauvage endémique de l'Afrique, donc qui est présente depuis toujours ici, qui se trouve à plus de 20 mètres de haut dans un arbre, et il y a bien des gousses de vanille sur cette liane de vanille. Ça a bien été fécondé naturellement.
Vous les avez, ces gousses ?
Exactement.
Non mais attendez,
fascinant.
Mais c'est pas une vanille qui nous a apporté, c'est une banane.
Elle ressemble plus à une banane ou à une courgette.
Elle fait quel poids ?
En verre, elle faisait plus de 200 grammes, la gousse.
Oh, ouais. C'est énorme !
C'est des très très grosses vanilles. Même la liane de vanille est très différente d'une liane classique, beaucoup plus épaisse, avec des très belles fleurs violettes d'ailleurs. C'est une vanille qui est assez surprenante.
Mais au-delà de sa grosseur, est-ce qu'elle est porteuse d'arômes, cette vanille ?
Alors ça, c'est le grand mystère. Alors moi, j'ai ramené deux gousses de vanille qui étaient vertes et que j'affine tout doucement chez moi pour en extraire, j'espère, de la saveur.
Là, ça veut dire que vous êtes en train de dire qu'elle est en train de sécher et de fermenter, là ?
Alors, elle n'est plus en train de fermenter, mais elle perd de son humidité au fur et à mesure du temps, exactement. Et le reste, c'est mon producteur qui les a gardées donc en Tanzanie pour lui les affiner au soleil, parce que l'affinage de la vanille sans ce soleil, on n'a pas d'aussi bonne vanille. Quoique, des fois, il y a des petits... exceptions, mais voilà, il faut quand même du soleil pour avoir une très bonne vanille.
Sinon, vous avez des vanilles de Tanzanie, mais d'un calibre un peu plus normal ?
Oui, de la variété planifolia.
Qui sont où ?
Qui sont juste ici.
Ah oui, carrément, vous en avez apporté...
Oui, j'ai apporté une belle...
C'est un fagot, c'est des bijoux.
Blindée d'arômes, et vous l'avez découverte, Tessa Ponzo, cette vanille de Tanzanie, au point même de la travailler. Comment vous pourriez définir sa palette aromatique ?
Eh bien écoutez, moi je trouve que cette vanille de Tanzanie, je trouve qu'elle a des notes très cuirées, presque boisées, dans la tartelette que vous êtes en train de déguster. Je l'ai faite fumer avec des noisettes du Piémont pour faire vraiment ressortir cette essence-là. Je trouve qu'elle est... Elle est particulière, cette vanille. C'est un terroir que je ne connaissais pas. Je commence à la travailler et en tout cas, je suis très contente de ce que j'ai goûté.
Vous pourriez nous donner l'intitulé de votre tartelette ?
Tout à fait. Alors ici, on est sur une petite tartelette qui se mange en une bouchée autour de la vanille de Tanzanie qui a été fumée avec des noisettes du Piémont pour en faire un praliné. On va retrouver un crémeux très onctueux qui a été fait avec une autre variété de vanille, qui est la variété Pompona Tsi, qui a été croisée avec une planifolia de Madagascar.
Ok, j'espère qu'on ne perd personne, mais oui, oui.
J'ai donc utilisé la gousse entière dans le crémeux. On peut voir notamment dans sa couleur un petit peu marronnée. Donc il y a et le caviar et la gousse. Sur le dessus, vous allez retrouver un glaçage vanille de Tanzanie et cette petite fonte de tarte qui est une feuille de brique caramélisée avec une extraction de canne qui vient de l'île de la Réunion.
Et vous n'avez pas servi votre copain Paul ? Ah si ! Vous avez une tartelette ?
Oui.
Alors, allez-y.
Je goûte.
Et dites-nous un petit commentaire.
C'est super bon. La noisette, en plus de ça, elle est parfaitement mariée avec la vanille. On sent d'abord la vanille et ensuite il y a cette noisette avec la fleur de sel qui vient relever la vanille et la noisette, c'est vraiment...
Ouh, qu'est-ce que c'est bon.
Entre la fleur de sel, la noisette torréfiée et cette vanille qui est fumée, je trouve qu'on tire presque vers le salé et qu'on quitte l'univers de la pâtisserie. C'est vraiment délicieux.
Ça vous plaît ?
Ah, j'adore.
Plein de questions encore à vous poser, évidemment, sur la vanille, ses usages, des recettes à vous dévoiler. Et puis, on va retourner, évidemment, à la Réunion, à la découverte d'une vanille givrée. Ça y est, l'expression est lâchée.
Dedico este poema a la que fuera tan amada durante fugaces instantes. A la mujer de mis noches, a la que se iba al alba, sin nunca hablarme de ella. ¿A quién bebió de mis fuentes y cuyo misterio me falta?
Las Damas, Que Pasan, la version mexicaine des Passantes de Georges Brassens, chantée par Adriana Paz. C'est évidemment un extrait de la bande originale d'Emilia Pérez, le très beau film de Jacques Audiard. La vanille, ses origines, ses crus, sa mythologie, ses recettes avec Paul Galland, chasseur de vanille, c'est comme ça que j'ai envie de vous surnommer.
Oui.
Et la pâtissière, Tessa Ponzo. Retour à la Réunion avec notre producteur bio, Franck Morel.
On va déguster. Sur France Inter.
Du coup là, je vais te montrer ma malle de maturation, la boîte à bijoux. Donc c'est vraiment un joyau, tu verras. Donc on ouvre ça, c'est une explosion de saveurs, de parfums, et on en prend plein les yeux, je te préviens.
Ah donc là, on a une belle boîte en bois.
En bois de tamarin, bois local.
Bois de tamarin.
Donc c'est un bois plutôt foncé.
Oh. Ah, c'est puissant.
Ouais. C'est un peu boisé justement, épicé, poivré, le côté pruneau, confit, quasiment on sent la sucrosité rien qu'au parfum. Et là,
ça c'est tout votre butin.
Ouais, une belle quantité de vanille givrée. Du coup c'est pas la récolte de l'année dernière parce que l'année dernière on n'a pas eu du tout de vanille, quasiment. Donc c'est la récolte de l'année d'avant, donc récolte 2022. Un an de maturation, de séchage, un an de casse en bois.
Mais elles ont un calibre impressionnant.
C'est ça, c'est la vanille givrée, mais c'est un peu notre nouvelle technique aussi. Donc c'est de la fraîche givrée. Elle reste pulpeuse et en même temps, on a tous ces cristaux de vanilline qui se sont développés sur les gousses de vanille.
Ah, c'est-à-dire, l'espèce de petite poudre blanche qu'on voit à la surface de la gousse, en fait, c'est la vanilline.
C'est la vanilline qui ressort de la gousse et qui se cristallise au contact de l'air. Tu peux observer différents types de cristaux. Donc les cheveux de pelée, donc en forme d'aiguille, et les cristaux de sucre, donc les cristaux de vanilline. Donc le process normal, c'est la récolte des gousses de vanille plutôt vertes, le fait de tremper les gousses de vanille dans l'eau bouillante, plutôt à 60 et quelques degrés, pendant quelques minutes. En fin de compte, va forcer la vanille à mûrir et à noircir. Ensuite, elle est généralement travaillée dans les malles en bois pour ensuite maturer la gousse de vanille et développer ses parfums. La gousse de vanille givrée, elle est vraiment le point crucial, c'est la gousse récoltée à maturité. Bec d'oiseau, c'est-à-dire lorsque le bout de la gousse de vanille commence à changer de couleur, gousse de vanille par gousse de vanille, donc ça prend énormément de temps. Et ensuite, il y a tout un travail de séchage très 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 lent pour éviter que la gousse de vanille durcisse et garde ce côté souple. Et c'est la technique familiale que nous on fait pour arriver à ce résultat de gousse de vanille givrée.
Vous, à titre personnel, cette vanille-là, à la maison, vous la consommez comment ?
On en fait des pâtisseries essentiellement. On est fanat de confitures aussi. Quasiment toutes nos confitures ont la vanille à l'intérieur. Donc que ce soit la papaye à la vanille, la banane à la vanille, vraiment tous les fruits à la vanille. Donc c'est vrai que maintenant la vanille est devenue un bijou hein, quasiment. Mais c'est quand même quelque chose qui était emblématique des grands-mères. Quand ils préparaient une confiture au pays, ben, c'était toujours un petit gousse de vanille dedans. Et c'est ça qui fait penser justement à ce goût longtemps aussi.
Merci.
Avec plaisir.
La vanille cristallisée ou givrée de La Réunion, sachant qu'on parle bien, Paul Galland, d'une vanille bourbon. Définition d'une vanille bourbon, parce que ça correspond à un label.
Oui, alors la vanille bourbon, en fait, déjà il faut que ce soit la variété planifolia. Oui. Le titre bourbon s'adresse uniquement à cette variété qui provient de l'océan Indien. Voilà.
Donc c'est un mélange d'une variété botanique et d'un terroir, en l'occurrence l'océan Indien. Donc
exactement.
Ce peut être Mayotte, La Réunion, Madagascar, l'île Maurice, il y a aussi un peu de vanille.
Île Maurice, oui, bien sûr, il y a de la vanille, j'en ai d'ailleurs ici. Vanille bourbon.
Ça réagit beaucoup sur les réseaux sociaux de France Inter, preuve que la vanille intéresse beaucoup le monde. Il y a pas mal de questions, notamment Justine Knapp, sur la conservation.
Oui, on nous pose cette question de la conservation et aussi qu'est-ce qu'on peut faire avec la vanille quand elle est devenue cassante.
Ah, ça c'est vrai que souvent on se retrouve dans le placard avec une vanille qui a un peu trop séché et qui du coup a perdu sa souplesse.
Alors déjà l'idéal pour la conservation, c'est dans des pots en verre ou tubes en verre.
Mm-hmm.
Surtout pas de liège, c'est souvent une erreur qui est faite. Donc tube en verre, température ambiante à l'abri de la lumière.
Mm-hmm.
Une vanille qui est quand même de très bonne qualité peut se conserver comme ça pendant des années et des années sans qu'elle ne bouge. Ensuite forcément elle va sécher un petit peu naturellement. Ce qui est normal, mais c'est pas grave du tout. On peut la réhydrater dans du lait, en la laissant dans le lait, ou alors on peut aussi la couper et la broyer entièrement. dans du lait.
Et faire une espèce de poudre de vanille.
Voilà, c'est ça. Mais en la broyant dans le mélange directement pour en extraire toute la saveur. Une vanille qui est sèche et qui a séché naturellement, ça peut être une excellente vanille. Parce qu'en fait, elle va perdre de son eau, mais elle va se gorger aromatiquement.
Tout est concentré.
Exactement. Parce que si on parle d'une vanille qui a 10 ans, effectivement, c'est normal qu'elle soit un peu plus sèche.
Beaucoup de questions aussi sur la taille de la vanille. Est-ce que la puissance aromatique d'une gousse de vanille est proportionnelle à sa taille? Autrement dit, est-ce que plus une vanille est grosse, plus elle a de parfum et de goût?
Alors non, pas du tout.
Ah.
Il y a des très grandes gousses qui sont très mauvaises, il y a des petites qui sont extrêmement bonnes, et inversement en fait. Tout ça, ça dépend de la nature qui va faire des grandes gousses ou pas. Et ensuite, il y a la main du producteur qui est très importante pour avoir une très bonne vanille.
Entre la conservation, la récupération de la gousse de vanille Tessa Ponzo, il y a une stratégie intéressante.
Il y a une stratégie. Quand j'ai rencontré Paul, on a beaucoup, beaucoup discuté autour de ce produit. Quand Paul part en voyage, qu'il m'envoie des vidéos de tous les producteurs qui pollinisent les gousses, les fleurs, pardon, à la main... En fait, on ne peut pas gaspiller ce travail-là et ce savoir-faire-là. Donc pour moi, c'est inconcevable de jeter une gousse de vanille une fois qu'on en a retiré l'extrait, le caviar. Donc on peut en faire un sucre vanillé que j'ai ramené juste ici, que vous pourrez sentir tout à l'heure. En fait, c'est
on va le sentir maintenant.
Ah là là. Donc c'est simplement du sucre qui a été mélangé avec une poudre de vanille qui a été passée au tamis pour qu'elle soit la plus fine possible et qu'elle soit pas trop filandreuse. Au fur et à mesure, ce pot, on le laisse au placard, et quand on fait une crème anglaise, on laisse infuser évidemment la gousse de vanille dans le lait. Qu'est-ce qu'on en fait une fois qu'on a fini notre crème anglaise? On rince cette petite gousse de vanille à l'eau claire, on la fait sécher 24 heures à l'air libre. Et ensuite, on la met dans ce pot de sucre vanillé. Et ce sucre vanillé, on l'utilise dans une pâte à cookies, on l'utilise sur des crêpes, c'est délicieux. Et il est chargé en aromatiques.
Donc séchage à température très douce,
très
pour ne pas altérer les molécules aromatiques.
Oui,
à la maison même. Je les ai faites torréfier au four une dizaine de minutes à 170. Et là, on va chercher une autre note aromatique. Un petit peu plus puissant, un peu plus boisé, torréfié.
Beaucoup de questions aussi, Paul Galland, sur le prix de la vanille. C'est vrai qu'il y a quelques années, encore même l'an dernier, certains pâtissiers français se plaignaient du prix de la vanille qui flambait. Ça veut dire que le prix de la vanille, ça correspond à un cours qui est fixé mondialement?
Ça va dépendre en fait de beaucoup de choses. La nature.
Les aléas climatiques.
Les aléas climatiques. Bah, moins il va y avoir de récolte parce que, je sais pas, il y a eu un cyclone ou le réchauffement climatique qui a endommagé les lianes de vanille. Le pays va produire moins de vanille, donc toujours autant de demandes, donc le prix va flamber. Ensuite...
Là, il en est où le prix de la vanille en ce moment?
Alors là, actuellement, si on parle de l'Afrique, on est vraiment sur des vanilles qui sont pas assez chères pour moi. Alors aujourd'hui, les producteurs, il y a un gros problème. Ils vivent très 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 mal de la vanille, de leur métier. Et ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment triste parce qu'il y a un énorme travail pour avoir une gousse de vanille. Ça demande minimum plus d'une année, voire deux ans pour avoir une seule gousse de vanille. C'est un travail énorme qui est très difficile. Donc le fait de voir là, à l'heure d'aujourd'hui, des vanilles très peu chères, bah, c'est quand même assez triste.
Donc il faudrait que les intermédiaires donne un revenu ou un prix de vente plus décent aux producteurs en amont.
Oui, bah, si on parle du prix, à l'heure actuelle, à Madagascar, on est sur au moins cher, jusqu'à 3$ la gousse de vanille verte. Pour avoir 1 kg de vanille noire, il faut en moyenne 6 kg de vanille verte.
D'accord.
Voilà. Les producteurs ne peuvent pas vivre correctement de la vanille à ces tarifs-là.
On va déguster sur France Inter.
Une petite surprise liquide avec Justine Knapp dans vos verres à pied, les amis. C'est une dégustation à l'aveugle, Justine ?
Oui, je vous laisse goûter à l'aveugle et puis vous me dites vos impressions, ce que vous sentez, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a comme ingrédient ?
J'ai une odeur que je connais.
Je la connais aussi.
J'ai de la fraise. Un côté marmelade de fraise.
De la fraise, oui.
Mais il y a autre chose.
Alors,
moi, j'ai l'impression qu'il y a de l'acidité qui est due à une fermentation. J'arrive pas encore à la nommer. C'est très bon, c'est frais.
Qu'est-ce que c'est bon?
Donc, c'est une combinaison de diverses fermentations. Effectivement, il y a bien ce côté réconfortant de la fraise, il y a de la vanille fumée, voilà, qui apporte cette profondeur aromatique qui fait le lien, et de la tomate. Et c'est une boisson qui est sans alcool. Et si je vous la fais goûter maintenant, c'est pour sentir à quel point on peut aller loin dans l'intensité, la complexité, la sophistication d'une boisson sans alcool qui n'est pas basée sur le sucre. Cette boisson, elle a été pensée pour les accords, imaginée par la chef Anne-Sophie Pic et Murray, une pointure de la fermentation au Danemark. Danemark, pays pionnier des accords sans alcool à table. En France, on s'y penche tout juste. Beaucoup de boissons artisanales soignées naissent. Les menus de dizaines de restaurants intègrent ces nouveaux accords. Et j'étais par exemple au restaurant Enfin à Bar en Alsace. La chef Carole Eckert, que vous connaissez bien, hein, qui était venue dans l'émission.
On l'a reçue dans une émission à Strasbourg, absolument. Et on a même eu la chance de goûter sa cuisine à Bar.
Là, donc la chef Carole Eckert, elle fait cette proposition depuis 2 ans, notamment un mix vin et sans alcool, dans un menu en 7 temps, plutôt que 7 verres de vin. Un verre est alcoolisé, l'autre non. Ça crée une autre cadence à table avec des suspensions très agréables. Et au départ, pour la chef, l'élan était économique. Les clients n'ont pas toujours envie ou la possibilité de boire du vin et c'est un manque à gagner pour les restaurants. Finalement, ça crée plus de partage à table quand tous les verres à pied sont servis, même chorégraphie, même considération. Surtout, ça permet de découvrir tout un champ créatif qui se met en place entre la salle et la cuisine et qui n'en est vraiment qu'à ses débuts.
Une vraie gastronomie liquide et cette créativité, on a vraiment hâte de la suivre dans les prochains mois et les prochaines années, Justine.
Et je parlais de la chef Anne-Sophie Pic avec sa chef sommelière Paz Levinson. Elles se passionnent toutes les deux pour ce sujet depuis 2018, donc elles ont été à l'avant-garde de cette recherche en France. La difficulté avec des boissons basées sur l'eau, sans alcool, sans sucre, qui peut être saturant sur tout un repas, on peut avoir des milieux de bouche un peu creux. J'ai posé la question, comment est-ce qu'elles trouvaient de la densité, de la structure pour leurs accords ? Et ce qu'elles aiment particulièrement, c'est baser leur création sur le thé et le café, voire de les proposer purs, tant ils peuvent être déjà complets, en plus avec des singularités de terroir. Donc on retrouve la dimension culturelle qui nous passionne tant dans le vin. Par exemple, un café servi avec du chevreuil rosé qui se mêle en saveur et en couleur au jus corsé. Un café d'une espèce rare de Malaisie, extrait doucement, avec de l'acidité, la présence nécessaire. Ou un thé avec les berlingots signature de la chef.
Ces petites ravioles comme ça, avec des farces qui changent selon les saisons.
Oui. Là, avec des berlingots coulants de camembert fumé, thé du Laos, capable à la fois de poigne et d'une grande délicatesse, exactement comme le plat, le tout dans une intéressante harmonie de température, boisson et plat tiède, sans contraste. Chez Anne-Sophie Pic et Paz Levinson, l'accord classique intègre les boissons au sens large, donc vin, saké, bière, café, création sur mesure, etc. Parfois, c'est une boisson sans alcool qui est simplement la plus adaptée, comme le thé avec les berlingots.
On revient à la vanille avec vous, Justine, et cette recette sans alcool pour un dessert vanillé, pour accompagner par exemple les formidables tartelettes pralinées vanille de Tessa.
Voilà, c'est ça. C'est une recette gentiment donnée par Margot Le Carpentier, fondatrice de Combat à Paris et chef cocktail des restaurants d'Alain Ducasse, et prise des accords gastronomiques avec les cocktails. Sa recette, on commence par réaliser un sirop de vanille très simple, économique. On chauffe 500 g de sucre dans 500 g d'eau. Et hors du feu, à froid, on ajoute une seule gousse de vanille, les grains et l'enveloppe ouverte. Et puis on peut réserver au frais. Et le cocktail, c'est 40 ml de cold brew, donc un café infusé à froid, 20 ml de ce sirop de vanille, 10 de vinaigre de cidre et 150 d'eau gazeuse.
Intéressant, le cocktail de Margot Le Carpentier, qui est une vraie pointure de la mixologie. La vanille, vous confirmez qu'elle mérite sa présence aussi dans les cocktails ?
Bien sûr, voilà, la vanille, on peut la mettre partout. Hein.
Et ce cocktail de Margot Le Carpentier, il est ici. Hein.
Santé.
Avec ses notes de café, ça c'est vraiment un régal. Hein.
C'est délicieux.
Qu'est-ce que c'est bon.
Oui.
Pas sucré du tout. C'est un vrai régal. Paul Galland, on vous retrouve sur une boutique en ligne. Vous fournissez de très grandes maisons parisiennes. Oui. Mais attention, vous y tenez. Le particulier qui s'intéresse aux vanilles et qui veut s'acheter ne serait-ce qu'une seule gousse, oui. Il peut s'adresser à vous.
Oui, exactement. Sur mon site internet, Galant Vanille, tout simplement. 10 gousses, et puis des provenances et des variétés qui sont introuvables. Bah alors, et qu'on peut trouver sur mon site.
Juste un petit inventaire à la Prévert, là, comme ça, des quelques vanilles très rares que vous avez apportées dans et leur bien, tube à essai en verre.
Complètement inconnues, comme la Baiana, qui vient du Brésil, comme la Chamisonis, qui vient aussi du Brésil, ou même une Cribiana, qui vient du Guatemala, ou même une Dressileri, qui vient de Colombie.
Ah oui, le gars est vraiment passionné, hein. On l'avait vu. Et il a même une vanille qui vient de... C'est moins exotique.
Tanzanie.
Non, mais je parlais de Bretagne aussi.
Ah, effectivement. J'ai une variété planifolia qui vient de Bretagne.
Qui est donc cultivée. Jean-François Piège nous en avait parlé à ce micro.
Cultivée en Bretagne. Sous serre. Très belle vanille planifolia. C'est leur deuxième récolte et c'est vraiment une vanille qui est extraordinaire, surtout 100% bretonne. Là, aujourd'hui, on a une qualité qui est quand même extraordinaire.
Allez, 30 secondes pour vous, Tessa, et pour nous faire goûter ce que l'on pourrait appeler un dulce de leche ou une confiture de lait.
Mais version sauce, ça va être entre la crème anglaise et le dulce de leche, sur une base de lait concentré non sucré, avec une vanille qui vient ici d'Ouganda, que j'ai sélectionnée parce que je trouve qu'elle apporte une belle amertume et qu'elle contrebalance bien la sucrosité de ce côté dulce de leche.
Donc, lait concentré non sucré avec de la vanille d'Ouganda infusée à froid.
Oui.
Et ensuite ?
Et à chaud un petit peu.
D'accord.
Mais 60 degrés, Paul. 60 degrés.
Donc,
au fond vapeur.
Chaleur douce, ouais.
Tout à fait. Et un petit peu de vergeoise.
Et un peu de vergeoise. Ah, absolument. Et là, ça donne ensuite cette sauce qu'on peut utiliser, qu'on peut, à la place d'une crème anglaise avec une île flottante.
Oui, pourquoi pas.
Un gâteau yaourt.
Tout à fait.
Un gâteau au chocolat.
Oui.
Bon, partout en fait.
La vanille, ça va bien avec tout en vérité.
Formidable. Eh bien, ce sera le mot de la fin. La vanille, ça va avec tout. On peut se renseigner du côté de chez Paul Galant, qui a donc son site. Vous nous en répétez l'adresse ?
Galant Vanille.
Galant Vanille pour récolter les vanilles les plus rares du monde. Et Tessa Ponzo, on peut goûter vos créations exceptionnelles. Vous avez très bonne réputation sur la scène pâtissière, puisque vous êtes chef pâtissière de La Serre. Avec beaucoup de desserts vanillés, on l'a compris, à Paris.
Oui, j'aime beaucoup travailler la vanille, mais il n'y a pas que ça. Je fais aussi d'autres créations dans un univers qui m'est propre. J'aime bien parfois travailler des légumes, travailler notamment des méthodes de torréfaction, de fumaison, de concentration.
Vous reviendrez évidemment nous en parler.
J'espère.
Merci à vous. Merci beaucoup. Merci Justine. À la prochaine.
À bientôt.
Une petite annonce à vous faire. Nous enregistrons la prochaine masterclass dont on va déguster avec Emmanuel Renaud. Vous connaissez ?
Bien sûr.
Le chef 3 étoiles. Le Flocon de Sel à Megève. Et ça se passe le jeudi 30 janvier à 10h30, ici même, dans notre studio 621 de la Maison de la Radio à Paris. Si vous voulez assister à cette émission et même y participer, puisque dans ces masterclass, le public pose des questions, participe à des dégustations, et ben vous nous envoyez un mail, on va déguster à radiofrance.com. Les places sont limitées, attention, vous nous envoyez un mail et on vous recontacte au plus vite. La semaine prochaine, une leçon de crêpes bretonnes. Galette au sarrasin ou crêpe au froment pour se préparer à la chandeleur. Merci.
Merci à vous. Merci.
À dimanche prochain, si vous avez encore faim.